entre du Goumaï au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. La loi portant nouveau statut des agents et fonctionnaires de l'État vient d'être promulguée par le chef de l'État. 3 ans après son examen au Parlement, ce texte adopté en mai dernier apporte plusieurs innovations, entre autres les changements du système octroyé au système contributif. Ainsi donc, tous les agents devraient désormais contribuer chaque mois à la caisse de retraite. Certains observateurs estiment que n'ayant pas un salaire de base, le fonctionnaire n'aidera pas notamment à la mise en route de cette innovation. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Notez que Hippolyte Kapanga est à la mise en onde, Pierrot et la Mégie à la réalisation et au standard de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo Loabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangoui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
En même temps que nous ouvrons les débats sur les ondes des radios Okapi par rapport à cette thématique, en même temps, le débat se tient sur notre page Facebook. Bienvenue, Zando, vous nous avez écrit, promulguer la loi, c'est bien, mais est-ce que le gouvernement met-il fonctionnaire dans les conditions qui leur permettront à respecter cette loi? Dieu qui demande aux croyants de payer la dîme commence d'abord par bénir ceux qui, pour qu'en retour, ils payent la dîme. Donc c'est la meilleure façon pour le gouvernement, d'abord, de bien payer les fonctionnaires, ensuite la loi sera respectée. Aimé Lutonadio, qu'on améliore d'abord nos salaires. Moi, je travaille à la division urbaine de l'économie nationale. Le jour de la paye, je sors de l'éco-banque avec 90 000 francs, tandis que nos amis de la division des finances sortent avec des sachets bien pleins. Pourquoi ce traitement différent alors que nous sommes tous fonctionnaires de l'État et avons fait les mêmes études? Eli Monedi de Pimbandaka, il faut d'abord que l'invité fasse une mise au point entre un fonctionnaire et un agent de l'État, car tout fonctionnaire est agent de l'État, mais tout agent n'est pas nécessairement fonctionnaire de l'État. Mais ils sont tous régis par une même loi. Or, quant au salaire, ils ne sont pas traités de la même manière. Vous remarquerez que les agents de l'État ont un salaire élevé par rapport aux fonctionnaires, eux, qui sont les poumons de l'administration. Patrick Mutombo, depuis Kadanga, ce système n'est pas bon en ce moment parce que les travailleurs et fonctionnaires de l'État n'ont pas un salaire de base. Franck Sichuata, depuis Lubumbashi, je pense que le président de la République devait commencer par promulguer les lois de manière à augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État plutôt que de promulguer une loi qui abaisse encore ou qui de plus en plus les salaires des fonctionnaires. Nous ignorons que les fonctionnaires de l'État congolais sont mal payés parmi les fonctionnaires du monde. Joël Bongolongondo, bien que cette contribution aidera dans une certaine mesure les fonctionnaires retraités et laissera un poste emploi vide, mais il convient de noter que la préparation et la mise à la retraite des fonctionnaires est une charge qui revient et doit revenir à l'État. Il est particulièrement regrettable que l'État puisse, par une loi, ses agents à une cotisation pour servir à une pension à la retraite, comme le cas des employés privés cotisent à l'INSS. C'est un revirement grave et non une avancée. Aimé Pangoulomo du Siro dans la province de Haute-Ouélé, j'estime que le système contributif initié par le chef de l'État congolais est bon. Prenons cet exemple concret. Si l'Institut national de sécurité sociale paye à terme échu ses pensionnés aujourd'hui, c'est parce qu'il avait bien préparé le terrain depuis des années. Pour réussir cette opération, il va falloir que le gouvernement congolais mette en place un cadre avec le personnel qualifié pour mobiliser, sensibiliser et enfin convaincre les agents et fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio Pascal I. Soumbicho Mwapu, ministre de la fonction publique. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
3 ans au Parlement pour son examen, le texte de loi portant nouveau statut des agents et fonctionnaires de l'État a été adopté seulement le mois de mai dernier. Le chef de l'État vient de la promulguer il y a quelques semaines, une longue lutte dont l'aboutissement ne peut que vous réjouir.
Bien sûr, comme vous l'avez dit, en l'espace de 2 mois, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a promulgué une loi qui a été adoptée et votée au mois de mai. C'est l'occasion en tout cas de dire un grand merci au chef de l'État, le remercier, non seulement le remercier mais aussi le féliciter parce qu'il vient là de jeter les bases vers la mise en place d'une administration qui se veut efficace et moderne dans notre pays. C'est aussi l'occasion de remercier les deux chambres du Parlement pour l'adoption de cette loi. Ça a pris beaucoup de temps, vu son intérêt, parce qu'il fallait, en tout cas, que les élus du peuple y regardent à fond. C'est une réforme très, très importante. Cette loi vient après la loi de 1981, et donc après la réforme de 1973. C'est pour dire tout simplement que ça a pris le temps que ça a pris, parce qu'on voulait avoir un nouveau statut qui soit à la hauteur des ambitions de notre pays. Et les ambitions de notre pays, vous le savez, le chef de l'État veut que nous devenions émergents. Et pour devenir émergents, il faut une administration publique qui soit efficace. Et la base juridique de notre administration était complètement obsolète. Il était temps de pouvoir revoir ce cadre juridique. Donc, encore une fois, merci au chef de l'État. Merci à l'Assemblée nationale, merci évidemment au Premier ministre qui pilote toutes les actions du gouvernement.
La presse qui vous a accompagné aussi.
Bien sûr, vous m'avez coupé la parole, je voulais dire la presse, il n'y a pas que la presse, il y a les fonctionnaires eux-mêmes représentés par les syndicalistes qui se sont battus pour que finalement nous ayons cette loi. En fait, tout le monde attendait cette loi.
Tout le monde attendait cette loi. Ce texte consacre le système contributif, je l'ai dit en sommaire, en lieu et place du système octroyé, ce qui veut dire que les agents devraient désormais contribuer chaque mois à la caisse de retraite. Concrètement, quels sont les problèmes qui ont été accumulés dans le système passé et quels sont les avantages que devra générer ce nouveau système?
Alors, je pense qu'il faut rentrer dans le contexte. Première chose, c'est que le système octroyé qui a duré pendant toutes ces années, c'est un système où l'État devrait prendre en charge toutes les pensions, tous les frais liés à la retraite. C'était possible quand on avait que quelques milliers d'agents et fonctionnaires de l'État. C'était possible lorsque les agents et fonctionnaires de l'État étaient bien payés et que le budget du gouvernement le permettait. Maintenant que nous avons autour de 1 million d'agents et fonctionnaires de l'État et nous savons bien sûr que l'État est en difficulté, il fallait à tout prix revoir le système. Encore que ça n'existe nulle part au monde. C'était une ambition à l'époque du Impère, mais inadaptée aujourd'hui. Et donc, ce cadre juridique nous permettra, évidemment, d'aller vers la contribution des agents et fonctionnaires de l'État pendant leur carrière, et par conséquent, de créer, de mettre en place une caisse nationale de sécurité sociale. Et cette caisse nationale de sécurité sociale permettra non seulement de payer les retraités, mais ça va nous amener vers la politique de mise à la retraite. Mais vous pouvez poser la question de savoir, est-ce que ça va réussir? Il faut dire qu'il y a eu des études préalables. Il y a eu des études préalables au niveau du ministère de la fonction publique qui ont prouvé que la caisse nationale de sécurité sociale que nous allons mettre en place va être rentable. Et d'ailleurs, les études liées à la bancarisation qui ont eu comme finalité la maîtrise de la masse salariale permettent aujourd'hui de dire que la caisse de retraite va être...
Quelle sera la différence, disons, avec la sécurité sociale, imprimée par l'INSS par exemple?
La différence est tout simple, c'est que l'INSS concerne le secteur privé. Ce sont les entreprises privées, par contre...
Ceux qui sont sous régime des conventions collectives.
Exact. Par contre, ici, nous avons une caisse pour les agents des carrières de services publics de l'État, ce qui n'existait pas dans notre pays.
Alors, un auditeur a signalé qu'effectivement, il y a dans ce statut des agents et de l'autre côté, des fonctionnaires. Est-ce qu'il y a une mise au point à faire là-dessus pour éclairer sa lanterne?
Ben, moi, je pense que pour ne pas entrer dans les détails, la mise au point à faire, c'est de dire que ce sont les deux catégories de fonctionnaires qui sont payés par l'État, qui dépendent du trésor public.
L'un est bien payé, l'autre sous-payé?
Bien payé et sous-payé, parce que évidemment, j'ai suivi ça. Mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des secteurs dans lesquels on a plus de primes que dans d'autres secteurs. Et un des axes de la réforme concerne la rationalisation des rémunérations. Nous voulons effectivement arriver au niveau où au même grade, on est payé de la même manière dans les différents secteurs. Les différences liées à la prime ne seront pas exorbitantes comme la situation d'aujourd'hui. Alors, donc, il faut apaiser cet auditeur. Ouais. Nous voulons aller vers la rationalisation des rémunérations.
Alors, dès lors que le salaire d'un fonctionnaire est, selon plusieurs observateurs, aléatoire, bon, passez-moi les termes, parce que la plupart d'entre eux bénéficient que des primes, vous venez de le dire, qui, du reste, ne devraient pas, en principe, hein, dépasser les trois quarts du salaire, chose qui n'est pas réelle dans les systèmes passés.
Ouais.
Alors, cela pourrait, vous ne redoutez pas que cela puisse constituer un obstacle majeur pour le succès de ces mécanismes?
Mais il y a même un élément qu'il faut ajouter. Non seulement il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui n'obtiennent que leur prime et pas de salaire de base, il faut dire que les cotisations proviendront plutôt du salaire de base, pas de prime. Alors, je m'en vais répondre à votre préoccupation. Première chose, ceux qui ont aussi bien le salaire de base et la prime, la situation actuelle est que les primes sont de loin supérieures au salaire de base. Or, ils vont cotiser à partir du salaire de base. Ce qui signifie que dans la politique salariale que nous sommes en train de finaliser, il sera question de rationaliser. Autrement dit, basculer, hein, prendre une bonne partie de la prime pour alimenter le salaire de base, cela n'aura pas d'impact budgétaire, vous comprenez, parce que le pays est en difficulté. Deuxièmement, ceux qui ont la prime et n'ont pas de base, la proposition d'aujourd'hui de départ, en tout cas la proposition de mon ministère, c'est de voir comment progressivement prendre une partie de cette prime, la convertir en base, quitte à ce que lorsque les conditions vont le permettre, on améliore toutes les conditions salariales. Donc l'idée, c'est que le salaire de base soit plus important que le prime comme la loi le prévoit, et c'est sur, à partir de ce salaire de base qu'il y aura les cotisations. Je dois préciser que les cotisations vont être équivalentes à 9% du salaire de base, mais de ces 9%, l'État va toujours contribuer à hauteur de 6%. Donc, il n'y a que 3% qui vont provenir du salaire de base de l'agent fonctionnaire de l'État. L'État ne se désengage pas complètement, mm-hmm. mais au moins l'État et le fonctionnaire contribuent à concurrence.
Je vais donc, dire, c'est un système contributif partiel.
Exact.
Donc, l'agent participe et également l'État. Alors,
exact.
Maintenant que la loi est promulguée, juste une dernière question avant d'ouvrir les standards, ceux qui sont déjà à la retraite et qui n'ont pas contribué, quel sera leur sort?
Ceux qui sont déjà à la retraite.
Oui.
D'abord, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ils vont continuer à être payés grâce à cette caisse.
Mmh.
C'est-à-dire, ils vont continuer à être payés par les cotisations de
ceux qui vont commencer.
De ceux qui vont commencer maintenant ou de ceux qui sont en fonction aujourd'hui. D'où l'idée que nous avons évoquée d'entraide entre solidarité entre les générations. C'est vrai que ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ils touchent difficilement. Parce que l'État est en difficulté, ce que nous voulons, c'est d'abord améliorer les conditions de paiement pour que nous ayons une caisse qui permette de les payer chaque mois quand il le faut. Ceux qui vont aller à la retraite, ils ne vont pas avoir le même problème parce qu'ils trouveront déjà l'argent au niveau de la caisse de retraite.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous ouvrons les standards avec vous, Alain. Vous êtes à Bouya. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, ministre. Bonjour à tout le monde.
Voilà, Alain, vous aviez, nous imaginons que vous avez pratiquement les mêmes inquiétudes lorsque vous nous avez écrit sur notre page Facebook. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous craignez comme les autres que le salaire, d'ailleurs pas le salaire de base, ou encore vivant sous le régime de la prime, les fonctionnaires n'aidera pas notamment à la mise en route de cette innovation?
Bon, je crois, partant de ce que vient de dire le ministre, j'ai quand même une certaine assurance, parce que moi, personnellement, je suis de ceux qui soutiennent cette réforme, qui va booster, de mon point de vue, même le fonctionnement de l'administration publique. Moi, mon inquiétude, c'était sur la gestion de ces fonds-là, qui va constituer la caisse de la retraite. Et deuxièmement, il y avait une grande inquiétude par rapport à la composition ou à la structure de la base salariale. Mais le fait que le ministre a donné certains éléments, c'est un soulage. Je voudrais quand même relever une chose. il y a des caisses qui ont existé, il y a des organisations qui ont existé, qui ont eu à gérer les fonds, la participation des agents. Et là, les gens ne sont comme ça, l'efficacité dans leurs actions. Je prends par exemple l'INSS. Pendant des années, l'INSS a eu à mobiliser beaucoup de moyens. Et nous avons constaté qu'il y avait une sorte de boulimie financière qui n'a pas permis aux agents d'en bénéficier, mais c'est plutôt les agents, les personnes qui étaient commises pour gérer ces fonds, qui s'enrichissaient en lieu et place des agents qui étaient appelés à bénéficier de tout cela. Alors moi, je voudrais demander au ministre s'il peut davantage vous éclairer sur le fonctionnement de la caisse de péréquence, de cette caisse de fonds qui sera destinée aux fonctionnaires. Et deuxièmement, voir la possibilité d'amener cette réforme dans un niveau plus simple, c'est-à-dire quoi? Que chaque province puisse avoir une représentation pour permettre à ce que cela puisse se mettre en application. Je prends l'exemple de la province de l'Ukraine où je le suis présentement. En tout cas, c'est vraiment, je dois dire que les fonctionnaires n'ont pas la place qu'il faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, partant de cette réforme, il y aura un effet d'entraînement, un effet d'induction sur la base salariale, mais malheureusement, les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Et ce qui veut dire que quelque part, leur contribution ne sera pas assez consistante, mais à la fin de leur carrière, après 65, après 30 ans de prestations, qu'est-ce qu'ils auront à bénéficier, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Si je prends un exemple simple, vous avez 9000 francs par mois. Et on va détailler 20% comme votre contribution. À supposer que l'on prenne les 20% dans chez les fonctionnaires. C'est une fête qui représente pratiquement 18 000 francs. Mais si vous multipliez par 12, ça vous fait pratiquement dans les 200 000 francs congolais. Et comment un fonctionnaire qui a eu à servir la République pendant des années, pourrait vivre au cours d'une année avec 200 000 francs. Donc quelque part, on doit stimuler, on doit pousser à ce que les gouvernements puissent revoir cette base salariale, mais aussi cela doit avoir un effet positif sur le rajeunissement même de la fonction publique. Aujourd'hui, l'État est dans l'incapacité d'envoyer à la retraite un grand nombre de gens dont la productivité est quasi nulle, mais tout simplement parce que l'État ne s'est pas préparé. Alors, aujourd'hui que nous avons eu le courage d'initier cette réforme, voilà pourquoi je salue le ministre, d'avoir cette réforme, et bien ça nous garantit aussi, dans une certaine mesure, une sorte d'équilibre du système de l'administration publique. C'est-à-dire, il y a possibilité aujourd'hui d'envoyer des gens à la retraite partant de cette réforme. Mais il y a quand même des inquiétudes en ce qui concerne la
gestion. Oui, Alain. Alain, vous ne pensez pas comme les autres qu'il y aura quand même des préalables ou encore des défis à relever quant à la mise en route effective de cette loi? Parce qu'on sait qu'il y a d'une part des gens qui ne voient pas de bonnes, disons avec un regard positif, cette réforme qui t'interrompt peut-être de mettre aussi des bâtons dans les roues. Il y a pas mal de préalables et aussi des défis.
C'est ce qui est vrai, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, c'est-à-dire c'est un processus. Le fait que le ministre ou le gouvernement a initié ce projet, cette réforme, et bien nous devons nous attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Certainement qu'il y aura des problèmes, c'est ce qui est important, la capacité d'apporter des mesures correctives. C'est ça en fait une réforme. La réforme n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un processus. Et nous savons que le fait qu'ils ont eu à initier cela, certainement il y a des études qui ont été menées pour faire en sorte que cela puisse amener l'administration à devenir de plus en plus compétitive. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous que cette administration n'est pas en mesure de répondre aux besoins de la population. Mais le fait que le gouvernement a initié cette réforme, et bien nous devons nous attendre, même s'il n'y aura pas des effets à court terme, mais au moins à long terme,
Nous sommes rassurés. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup Alain, nous retenons des choses, c'est vrai, les inquiétudes tournent autour de la gestion de cette caisse de retraite, comment cela sera fait, et aussi la question sur la structure des bases salariales. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, et votre souci est allé encore dans le sens de pouvoir plaider pour la représentation au niveau de provinces, pour que finalement qu'il y ait cette administration de proximité, afin de pouvoir donner les résultats escomptés. Merci beaucoup. Edouard, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité, bonjour.
Quel est votre avis, Edouard, après avoir suivi Alain, qui a d'ailleurs salué ou qui encourage d'ailleurs cette réforme en évoquant quelques points? Quel est votre avis?
Bon, M. Alain n'a pas du tout tort, mais nous nous inquiétons avec une chose. Les lois ne manquent pas en République démocratique du Congo. Elles sont souvent promulguées, mais leur mise en pratique, c'est ce qui cause un peu de problèmes. Je reviens sur ce que mon prédécesseur a dit par rapport au salaire de base. Il a très bien expliqué les cas concrets qui feront en fait que, à la longue, nous trouverons des difficultés énormes. Mais moi, je voulais poser la question à ministre. Il justifie parfois le dysfonctionnement de l'INSS parce que l'État est en difficulté. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que l'État ne soit plus en difficulté pour ne pas connaître le même dysfonctionnement que l'INSS trouve parfois?
Oui, quand vous parlez de dysfonctionnement, vous voulez faire allusion à quoi concrètement?
Je veux faire allusion à ceux qui sont retraités, qui ne trouvent pas leur salaire, leur argent.
Mmh.
Au temps et au moment demandé, je vous donne l'exemple. Moi, avant d'être à Kinshasa, j'étais au Maniema, dans les territoires des Pangues, précisément à Kalima. Là où vous verrez les grands pieds, un vieillard de 90 ans, qui se met sous le soleil pendant au moins 3 jours pour recevoir peut-être 10 000 francs et qu'il sera remis après, par exemple, 2 semaines, chose qui est énervée. Parfois, nous qui sommes maires.
Ben voilà. Alors, je crois que, Edouard, là, on va encore revenir de manière un peu pédagogique à expliquer les effets ou les conséquences. Quand vous contribuez, qu'est-ce que vous devez vous attendre à quoi, n'est-ce pas? Et vous contribuez à hauteur de tel pourcent. Vous aurez peut-être le droit dans ce que vous avez contribué à la longue par rapport à tel, donc c'est-à-dire ce que vous recevez, c'est au pourcentage de votre contribution. Donc je crois que ça ne doit pas être, si c'est à géométrie variable, c'est justifié et ce n'est pas à nous. Donc je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, Edouard. Maître Serge, vous êtes à Kamina, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, cher invité.
Et quel est votre avis, Serge?
Oui, moi, en tout cas, j'ai salué ça, mais néanmoins, nous sommes en train de régresser. Prenons par exemple les cas des pauvres enfants, de 100 000 ou 103 000. Si le victime de paye, on écrit 103 000. Mais quand il arrive à la tenda, à la banque, on dit, c'est 100 000 prêts, si vous ne voulez pas, en tout cas, allez, vous partez chez vous. Les 4 000 là, qui vont se valoriser dans la nature, on ne connaît même pas là où ça part. Vous voyez que, en tout cas, là, ce n'est pas sérieux. Et il fallait commencer, il fallait commencer d'abord par les routes. On a sorti la taxe ici, on sort la taxe, les gens vont commencer à contribuer. Mais les routes, ils se retrouvent dans un état là, très de la merde. Ah, vous trouvez ça, c'est vraiment ridicule. Et j'aimerais assez qu'on puisse revenir sur beaucoup d'abord les sociales. Comme il y a les écarts dans les salaires. On continue
voilà. Alors,
à demander cet argent, cette taxe-là,
voilà, Serge. Oui, Serge, nous risquons de nous éparpiller un peu, hein, parce que là, vous nous amenez sur les terrains des infrastructures. Nous parlons de cette loi. Bon, voilà, le temps que vous continuez à réfléchir par rapport à cette thématique, on prend Sylvain qui est à Bouya. Sylvain, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous les Congolais.
Voilà, Sylvain, si vous pouvez redynamiser votre voix.
Allô?
Oui, vous pouvez quand même redynamiser votre voix, parce que là, vous parlez un peu... on vous écoute à peine.
Oui, est-ce que là, maintenant, vous m'entendez
bien?
Oui,
allez-y, allez-y.
En fait, lorsque j'ai vu le sujet de l'émission du jour sur la page Facebook de la radio, à son émission Paroles Auditeurs, je me suis dit qu'il fallait plus intervenir pour dire quelque chose en ce qui concerne le management du secteur de l'administration publique de la fonction publique au Congo. Mm-hmm. Parce que les gens sont en train de ramener ce débat du management de ce secteur sur l'élaboration des textes. Et moi, j'ai dit que lorsqu'ils essayent de feuilleter tous les textes qui ont régi, n'est-ce pas, ce secteur de
l'administration,
allô?
Oui, allez-y.
Il me semble qu'il n'y a pas eu vraiment un problème de texte, mais il y a un problème de management. Ça veut dire quoi, monsieur Gérard? Nous semblons poser des problèmes dans le secteur de l'administration publique en termes de la réglementation, alors que les problèmes se posent plus
à remettre la charge, hein, n'est-ce pas, de la tête de ce secteur-là, voyez-vous. Et donc, je n'ai pas eu le temps de lire la loi comme il faut. Et puis, si les permettre, quand vous m'appelez là, j'étais en train de chercher une nouveau poste. Je n'ai pas eu, malheureusement. Mais je me dis que, par rapport à l'aspect qui a été soulevé sur la page Facebook dans cette commission, est-ce que les contributions qui seront faites par les agents et fonctionnaires de l'État à ce qui concerne la garantie de leur retraite et puis l'innovation, moi j'ai dit non. L'ancien code l'avait déjà bien garanti. Puisque souvenez-vous qu'en dehors de ce qu'on appelle ici l'INC, il y a aussi l'INPP. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres contributions qui sont faites. N'est-ce pas? Par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Il y a l'organisation même au sein des entreprises aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, qui essaye d'aider les travailleurs congolais à avoir une bonne condition de vie. Et moi, je me dis que ces lois, ce code-là, n'a pas vraiment ici une grande innovation. Mais pour moi, le problème se pose au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de ces personnels-là. Est-ce que cette loi peut aujourd'hui dire qu'il faut revoir la façon de gérer ce secteur? Est-ce qu'il faut faire un bon management? Est-ce qu'il faut donner une nouvelle productivité de ce secteur-là? Et comment ça devrait se faire? C'est comme ça que je vous ai dit, même sur votre page Facebook, c'est qu'aujourd'hui, le problème qui se pose dans ce secteur-là, c'est la précarité, hein, n'est-ce pas, de ces agents et fonctionnaires de l'État. Et donc, à ce niveau-là, je ne vois pas si des innovations à ce qui concerne les contributions ou les cotisations, il doit garantir la retraite de l'agent qui est une innovation. Mais moi, je te dis aujourd'hui, il faut que les ministres de la fonction publique, avec tous les autres ministères, tels que l'économie, là où on crée l'emploi, nous devons nous mettre dans notre tête, est-ce qu'aujourd'hui nous rendons compétitifs, les agents qui sont de l'État. Dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce que nous ne restons pas dans la routine? C'est ça le mal de l'organisation publique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, un agent qui vient du lundi au samedi, ou soit du lundi au vendredi, il sait que peut-être qu'il fait c'est ça, il arrive à 10h, à 12h, à 13h à la maison, il arrive à 8h, à 12h déjà à la maison. Donc voilà un peu le point qui se pose. Est-ce que c'est une loi? Et malheureusement, je n'ai pas y aller. C'est garantir à ces gens. Oui.
Merci beaucoup Sylvain, je crois que nous voyons les auditeurs qui aimeraient bien quand même lire intégralement cette loi d'aller d'accéder donc sur le site du journal officiel. C'était prévu d'ailleurs le week-end dernier qu'on puisse déjà le publier au journal officiel. Bon, je n'ai pas encore d'informations, mais toutefois, il faudrait quand même consulter à chaque fois le site du journal officiel pour vous faire une idée très claire de l'intégralité de ce texte. Merci beaucoup, Sylvain. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capite propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Voilà, et encore merci de votre fidélité à Radio Capi, et nous revenons dans ce studio avec vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Il y a Maître Serge, Sylvain de Bouya, Edouard de Kinshasa, Alain de Bouya également. Alors, bref, il y a ceux qui soutiennent d'ailleurs la réforme, mais il y a quelque part Edouard qui a insisté sur les dysfonctionnements qu'on observe au niveau de l'INSS. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une mauvaise expérience que l'administration publique pourrait faire? Comment contourner cet aspect des choses? Sylvain Debouya qui évoque le management, qui doit être le socle d'ailleurs, si on veut vraiment tendre vers une réussite. Et puis Alain qui, en fait, a évoqué tous ces aspects, qui a été soutenu d'ailleurs par d'autres qui évoquent également l'expérience de l'INPP ou l'INSS. Alors, comment orientez-vous les uns les autres, monsieur le ministre?
Mais je voudrais d'abord remercier tous les intervenants de l'intérêt qu'ils ont manifesté. Je pense que tous ont reconnu que effectivement notre administration publique se retrouvait dans une situation où elle n'est plus efficace. Et face à cela, ce n'est pas seulement l'amélioration des conditions salariales qui peut rendre une administration efficace. L'étude qui a été menée, en tout cas le diagnostic, a montré qu'il y a plusieurs problèmes. Et un des problèmes majeurs, c'est d'abord le cadre juridique lui-même. C'est pour cela que nous nous sommes attaqués d'abord à ce cadre juridique. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous améliorez le salaire et vous n'avez pas un cadre juridique adapté, ça ne sert à rien.
Mais voilà. Sylvain a beaucoup plus parlé de la prise en charge que dans les cadres juridiques.
Mais exactement, c'est pour cela que je lui réponds en disant qu'il a raison. Il faut améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, mais il faut d'abord il faut le faire dans un cadre juridique qui permette l'amélioration de la qualité de service que l'administration publique va rendre. Nous pouvons même aller loin dans la réflexion. Pourquoi l'État aujourd'hui est en difficulté et n'a pas les moyens? C'est parce que nous avons une administration publique qui ne mobilise pas les moyens. Elle ne mobilise pas les moyens parce qu'elle n'est plus efficace. Vous voyez, cette administration va demander le moyen à l'État alors que c'est cette administration qui doit produire des moyens pour l'État. Il faut casser ce cercle vicieux en mettant en place d'abord le cadre juridique. Et là, encore une fois, il faut remercier le chef de l'État parce qu'il vient de nous donner la base. Deuxièmement, est-ce que nous pouvons être sûrs que ça va fonctionner, la caisse de retraite va fonctionner et nous allons éviter tous les problèmes à l'INSS? D'abord, nous ne sommes pas ici pour parler de l'INSS. Et il y a quelqu'un qui a même dit que l'INSS a des difficultés à cause du dysfonctionnement de l'État. Non, l'INSS n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'État. Oui, d'abord, il y a eu une étude de faisabilité avec une assistance technique d'une consultance internationale. L'étude de faisabilité a montré que la caisse de retraite va fonctionner. Mais vous savez pourquoi? L'État, c'est le plus grand employeur. Nous avons près d'un million d'agents et fonctionnaires de l'État. Tout cela, les 1 million cotisants, nous aurons les moyens. Nous aurons les moyens pour payer les retraites et pour mettre progressivement ceux qui vont atteindre l'âge à la retraite. Mais j'ai souligné en disant que non, l'État va continuer à contribuer. D'ailleurs, pour l'année en cours, hein, le budget, l'exercice budgétaire de l'année en cours, l'État, le gouvernement, a prévu 16 milliards de francs congolais, je vais dire grosso modo, 16 millions de dollars pour commencer la caisse. Et nous avons des partenaires qui sont aussi disposés à mettre des moyens pour le démarrage de la caisse. Concernant la gestion, évidemment, tout est mis en place parce que la caisse devra fonctionner de manière autonome et indépendante. Il y aura un conseil d'administration totalement indépendant et il y aura évidemment un comité de direction. Dans le conseil d'administration, vous retrouverez les représentants des fonctionnaires, les représentants même des syndicalistes. Vous voyez, donc les différentes parties prenantes vont participer à la gestion de cette caisse pour que nous ayons le résultat escompté. Il y a aussi l'expérience d'autres pays. C'est pour cela que le 25 et le 26, ici à Kinshasa, nous organisons un forum international de haut niveau sur le processus de sécurité sociale. Nous aurons d'autres pays comme le Maroc, comme le Burundi, comme le Burkina Faso, comme la France, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui vont venir ici nous partager l'expérience qu'ils ont vécue dans la mise en place de leur caisse de sécurité sociale. Et je veux dire que là, il faut que les agents comprennent et toute la population que l'État continue à être responsable. Ailleurs, les contributions, c'est entre 15 et 20% du salaire de base et l'État contribue en concurrence de 50% et l'agent 50%. Ici chez nous, j'ai bien dit, c'est 9% et l'État va prendre la charge.
Donc est-ce que c'est un aveu d'impuissance de la part du gouvernement qui accepte qu'effectivement ils ne payent pas bien les fonctionnaires?
Non, c'est plutôt un aveu de responsabilité. L'État est conscient, et pour commencer, il faut que l'État soit responsable. Progressivement, les conditions s'améliorant, les choses, même les quotas de contribution vont également s'améliorer. En fait, l'État est conscient. Ces agents sont des agents de l'État. Le problème avec la population, et même avec vous les journalistes, c'est de mettre d'un côté l'État et de l'autre côté les agents de l'État. Non, ce sont ces agents.
Alors, raisonnons simplement comme un homme de la rue, les 16 millions que le gouvernement veut injecter directement pour commencer la caisse, pourquoi ne pas prendre directement, distribuer aux agents et augmenter ne fût-ce que l'enveloppe?
Mais ça serait insignifiant. Voilà, ça serait insignifiant. Et c'est ce qu'aujourd'hui, il faut soutenir le fait d'asseoir cette caisse de retraite. Mais je voulais, vous avez voulu me détourner, mais je voulais dire, il n'y a pas d'un côté l'État et de l'autre les agents et fonctionnaires de l'État. Non, les agents et fonctionnaires de l'État constituent l'administration publique. Il n'y a pas d'État sans administration publique. Autrement dit, lorsque nous disons aujourd'hui l'État est devenu faible, ben c'est parce que nous, administration, nous sommes devenus faibles. Lorsque nous parlons de la corruption, qui est corrompu? Ce sont les agents, comme vient de l'État. C'est pas l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est d'abord cette administration publique. Et c'est pour cela que nous devons tout faire pour que notre administration publique se mette debout. Donc, j'ai dit qu'il y aura un conseil d'administration. Et évidemment, cette approche contributive est très, très importante. Je peux donc garantir que nous allons tout mettre en œuvre pour que la Caisse nationale de sécurité sociale réussisse. Sinon, ça serait un échec.
L'application qui a toujours posé problème, quelles sont les mesures d'accompagnement?
Voilà. Première chose, sur le plan juridique, nous sommes en train d'élaborer les règlements d'administration, c'est-à-dire tous les autres textes qui vont rendre applicable cette loi. Et il y aura une vingtaine de textes, et l'équipe qui s'occupe de ça est déjà en retraite aujourd'hui. C'est pour dire que nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Deuxièmement, et là je suis tout à fait d'accord avec la préoccupation des Sylvains, il faudra évidemment que les gens qui vont animer cette caisse soient des gens qui sont conscients et qui ont la compétence requise. Et ne vous en faites pas, nous allons veiller à ce que cette caisse réussisse. Alors, il ne faut pas faire une confusion entre la caisse de retraite et l'INPP, voilà, qui sont des structures qui ne s'occupent pas.
Oui, il y a un auditeur qui a parlé des innovations. Bon, c'est qu'aujourd'hui, l'âge, une autre innovation aussi consacre moins dans ce texte, l'âge de la retraite. C'est passé de 55 à 65 ans. Alors, pourquoi avoir pensé à l'extension de la durée des services de l'État pour un fonctionnaire? Et après, comment l'État ont-ils capitalisé toute l'expérience que devra, drainer un agent retraité?
Ça, c'est une très, très bonne question. En fait, première chose, il faut savoir que grâce au leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il y a la paix qui s'est installée dans notre pays, après les guerres. Et la paix a eu comme conséquence, évidemment, l'augmentation de l'espérance de vie. Il est donc tout à fait normal que la nouvelle loi, le nouveau statut du fonctionnaire tienne compte du fait que la longévité s'est améliorée dans notre pays. Et donc, au lieu d'aller à la retraite à 55 ans, parce qu'on devient vieux plus tard aujourd'hui qu'hier, les gens iront à la retraite à 65 ans. Et il faut aussi considérer qu'avec l'ancien statut, aller à la retraite, les gens se considéraient comme jetés dans un mouroir. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la retraite, non seulement il y aura une caisse de retraite pour garantir la pension, mais deuxièmement, ceux qui auront encore l'énergie et l'expertise nécessaires vont être utilisés par l'administration publique comme des contractuels. En fait, la loi aujourd'hui permet de combiner les deux, c'est-à-dire l'administration publique de carrière à côté de l'administration publique d'emploi. C'est une innovation importante. Nous recevons ici les gens qui nous viennent de l'Occident, qui sont déjà retraités, et qui viennent continuer le travail en tant que des consultants. Donc la même chose, tous ces secrétaires généraux qui pourront aller à la retraite avec toute l'expérience qu'ils ont, ils vont encore revenir dans l'administration sous contrat pour coacher les jeunes qui vont prendre leur...
Voilà, alors on va retrouver à nouveau les auditeurs, Maître Alain à Colosie, Jésus à Kadanga et Rachel à Kinshasa. Maître Alain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, je vous remercie d'avoir m'accordé aussi cette opportunité de pouvoir intervenir dans cette émission.
Quel est votre avis après avoir écouté les uns les autres?
En tout cas, je remercie d'abord mes prédécesseurs qui ont déjà parlé. Moi, je voulais peut-être aussi ajouter quelques éléments seulement. Nous remercions d'abord cet arrêté. Nous sommes pour et nous sommes contents par rapport à ça. Moi, je sais que la loi a toujours été dure, même si c'est compliqué par rapport au salaire, mais je sais que les Congolais ont cette volonté de pouvoir contribuer. Mais mon inquiétude, c'est toujours au même niveau que mes prédécesseurs. Ils ont déjà dit. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous garantir? Parce que les Congolais savent mieux parler le français. Ils savent mieux défendre les choses. Garantie de travailleurs aujourd'hui, ou soit ceux-là qui seront aujourd'hui les travailleurs de l'État ou les agents de l'État, les fonctionnaires ou les agents de l'État. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous garantir que, en tout cas réellement, au niveau de la retraite, ils seront nécessairement servis? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, M. J.R., c'est pas normal. Hein. Vous voyez que
on est en train d'élaborer ces lois, mais le problème c'est la practicalité. Le problème c'est la justice aussi. L'impunité, j'ai beaucoup un peu ce point-là, les histoires de l'impunité. C'est cet argent-là. C'est mieux que le même fonctionnaire, le fonctionnaire qui va commencer à détruire encore d'autres. Et quelqu'un qui va détourner cet argent, il n'y aura pas de poursuite juridique. Donc, c'est ça mon inquiétude. J'aimerais un peu dire à visiter, monsieur le ministre. Est-ce que réellement, ils peuvent nécessairement mettre cet règlement? Recouvrer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent recouvrer, on peut avoir beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent quand ils nous donnent le nombre d'effectifs. C'est énorme. Mais est-ce qu'il peut nous garantir que réellement,
oui,
il y aura
cette sanction? Alors, est-ce que vous pensez comme les autres qu'aujourd'hui, l'extension de la durée des services pour un fonctionnaire de l'État, c'est ce qui justifie d'ailleurs la position du gouvernement qui veut mobiliser davantage de ressources pour cette caisse? C'est pourquoi il faut étendre un peu, aller plus loin, travailler beaucoup et on contribue aussi beaucoup.
Oui, mais quand on contribue beaucoup, le problème aujourd'hui, lorsque le contribuant donne l'argent, il contribue avec leur petit lien là qu'ils sont en train de trouver. Est-ce qu'ils seront garantis? Parce que l'argent peut entrer déjà dans les caisses. Mais le jour où les gens donnent leur gain là, est-ce vraiment arrivé? Parce que moi, je sais que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas la théorie. La théorie, en tout cas, tout le monde sait, tout, les Français, on peut nous dire ça. Mais je sais que cet argent-là sera toujours détourné et ces gens qui détourneront cet argent seront toujours en infinité en train de vaguer à leur occupation.
Oui, c'est votre droit. Mais bon, au cours de cette émission, on s'arrange quand même, en tout cas au maximum, d'être moins prophète des malheurs, parce qu'il s'agit bien d'ailleurs des échanges citoyens, pour permettre à ceux qu'on puisse trouver une voie de sortie. C'est vrai, aujourd'hui, il y a cette réforme que d'aucuns ont soutenu déjà au cours de cette émission, et vous également, mais vous mettez quand même quelques inquiétudes, c'est tout à fait normal, et vous pensez que voilà, il y aura une forte mobilisation des ressources, les gens vont contribuer, mais la question du détournement qui doit être gérée dans la gestion, c'est ce qu'a dit, par exemple, Sylvain.
Nous avons même les dossiers aujourd'hui, vous savez, monsieur Zier, il y a quelqu'un qui travaille, par exemple, à la GECAMINE aujourd'hui, il est décédé, ses enfants doivent bénéficier, ils ont gagné, par exemple, les jugements, la GECAMINE, qu'est-ce qu'il dit par rapport à soi, la loi de la GECAMINE, et de le travail, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on perd? Les gens sont en train de souffrir. Maintenant, nous, les avocats, nous sommes en train de souffrir avec nos clients. Les clients n'ont pas maintenant confiance en nous parce que le...
Voilà, il y a des effets domino. Merci beaucoup, Maître Alain. Josué, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, merci. Toutes mes salutations vives à son excellence, monsieur le ministre.
Merci.
Pour cet acte, déjà, répondre à cette invitation, c'est un acte patriotique.
Merci.
Nous sommes dans un contexte de réforme. La réforme, c'est un processus. Donc, on doit commencer quelque part. Et par là, parlons déjà de l'avènement de la loi sur la fonction publique qui est promulguée par le président de la République. C'est déjà quelque chose qu'on n'a fait pas ailleurs. Mais en fait, les contraintes qui vont se poser seront seules relatives à l'applicabilité de cette loi. Donc, le ministre, déjà avec toutes ses prérogatives, doit prendre toutes les mesures possibles à l'application effective de cette loi. Et avec l'innovation de la création de la caisse de retraite, c'est vraiment une nouvelle idée qui doit, bien entendu, incorporer les fonctionnaires congolais qui, jusque-là, n'ont pas cette idée-là. De toute façon, on doit passer par des vulgarisations.
Voilà, merci beaucoup, Josué. Si je comprends bien votre inquiétude, c'est en fait l'effectivité de la mise en route de cette caisse de retraite. Quand elle interviendra-t-elle? Donc voilà, c'est autant de questions que nous pouvons aussi nous poser. Qui vont gérer? Comment ils vont les gérer? Et est-ce que ça sera avec le succès, avec le résultat escompté? Voilà, donc nous aurons beaucoup plus d'éclairage tout à l'heure. Entre-temps, on accorde la parole à Rachel qui est à Kinshasa. Rachel, bonjour.
Pierre, et bonjour ministre.
Bonjour.
Quel est votre avis, Rachel?
Oui.
Quel est votre avis?
Oui, monsieur le ministre, j'ai juste une petite préoccupation. Avec les problèmes de la disparition salariale que nous avons et des différentes zones, économiques, bon, est-ce que les fonctionnaires vont tous contribuer de la même façon? C'est ça.
Merci, merci beaucoup, Rachel. Alors, Excellence, c'est juste une question d'ailleurs directe. Hein. C'est vrai, bon, la contribution sera aussi à géométrie variable. C'est par rapport aux moyens, par rapport à ce qu'on gagne. Voilà, donc, au pourrata, et à la fin, on pourrait peut-être aussi en bénéficier au pourrata de ce qu'on a contribué.
Mais bien sûr, je pense que vous avez déjà répondu à Rachel. Ceux qui gagnent plus contribueront plus. C'est tout à fait normal parce qu'il s'agira d'une part, dans une part égale en termes de proportion. Dans,
et les 9%, c'est une contribution minimale ou minimum ou
oui.
On peut aller,
Non, c'est une contribution minimale pour commencer, évidemment. Mm-hmm. Et les conditions pourront s'améliorer petit à petit.
Mm-hmm.
Alors, si vous permettez, rapidement, nous pouvons revenir aux préoccupations de nos amis. Encore une fois, je les remercie. Hein. Vous comprenez que le Congolais veut s'approprier cette réforme et c'est ça ce que nous voulons. Pour revenir sur la préoccupation d'Alain, non, nous ne ramenons pas tout le problème de l'administration publique au seul problème de réglementation ou au seul problème juridique. Non, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes et d'ailleurs la réforme n'est pas concerne pas seulement le cadre juridique, la réforme concerne aussi la politique salariale, concerne le système intégré de gestion des ressources humaines que nous mettons en place, le dialogue social, tout le travail que nous faisons avec les syndicalistes, les cadres et structures organiques. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens. Il ne faut pas oublier la décentralisation parce que nous mettons en place l'administration publique au niveau décentralisé, au niveau des entités territoriales décentralisées, il y a le rajeunissement. Il ne faut pas oublier que l'ENA joue un rôle important, le programme jeunes professionnels. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez voulu que nous parlions de la caisse de retraite. Et toute la question, c'est de dire, les gens sont d'accord avec la caisse de retraite, mais quelle est la garantie? Je veux commencer par dire que les gens ont raison. En raison parce que effectivement nous avons vécu dans ce pays à un moment où la population ne pouvait plus faire confiance aux dirigeants. Nous sommes conscients de cela. Et les dirigeants actuels font tout pour que cette confiance revienne. Première chose concernant la caisse, c'est que il y a une garantie du fait que l'État va contribuer régulièrement. Déjà, l'État paye le salaire de manière régulière, même si c'est insignifiant. Mais depuis quelque temps, nous voyons que c'est payé régulièrement. Et étant donné que ça va être retenu à la source, ça signifie que nous avons la garantie qu'on aura les moyens. Deuxième chose, le conseil d'administration dans lequel vont être représentées les différentes parties prenantes va jouer un rôle de contrôle. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la fonction publique, nous avions hier, je vais le dire comme ça, un service l'OFEP, qui est là pour suivre la bonne gouvernance.
L'Observatoire.
Et dans le cadre de la réforme, l'OFEP est devenu aujourd'hui un établissement public, avec une autonomie juridique, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres pays. Mais pourquoi nous avons voulu que l'OFEP devienne un établissement public au lieu d'un service public? C'est pour que l'OFEP soit indépendant et puisse contrôler tout ce qui s'est fait au niveau du gouvernement. Nous avons l'inspection de la fonction publique, qui est soutenu par la nouvelle loi. Il ne faut pas aussi oublier que la loi aujourd'hui renforce bien la discipline par la commission de discipline qui est instituée. Et je peux même aller loin si vous le permettez.
La commission de discipline, c'est comme le conseil de la magistrature.
Exact. Donc nous aurons d'abord conseil supérieur de la fonction publique et nous aurons un conseil de discipline pour lequel nous élaborons déjà les textes réglementaires et ça va être très très important.
Et ceux qui tomberont sous le coup des détournements, ils seront.
Et je voulais dire que les gens ont crié dans ce pays à l'impunité depuis un certain temps. C'est presque chaque mois que même le président de la République signe des ordonnances, des révocations, le premier ministre signe des décrets. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y en a qui ont commencé à dire, ah oui, le ministre de la fonction publique, il vient juste pour faire révoquer les gens. Mais c'est parce que pendant longtemps, les gens ont évolué dans l'impunité. Et désormais, nous avons décidé d'aller dans ce sens. Et le premier à lutter contre l'impunité, c'est le chef de l'État. Il n'existe pas à signer les ordonnances.
Juste une curiosité, je ne sais pas quel est le sentiment que vous avez quand quelqu'un dit, par exemple, l'argent, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le fait de pouvoir trouver ne fût-ce qu'une solution, qu'on peut qualifier peut-être de partielle, avec cette caisse de retraite, vous pensez que toutes ces tensions qu'on a connues dans les secteurs au niveau de la fonction publique, des grèves par-ci, des grèves par-là, des détournements ou d'autres cas, voilà, on va minimiser ça dans les jours à venir?
Bien sûr, mais je dois dire que le problème, ça a été d'avoir un problème de communication. Les agents et les fonctionnaires de l'État ne sont pas des voyous. Non. Les syndicalistes ne sont pas des voyous. Ce sont des intellectuels qui comprennent.
La cohésion avec les syndicalistes.
Voilà. Le dialogue social, c'est très très important. Les syndicalistes, ce sont des partenaires de l'État, partenaires du gouvernement dans la gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis que nous sommes là, et les fruits sont là. Tout le monde voit qu'il y a cette ambiance, ce climat d'entente qui s'installe. C'est ce que nous devons continuer à renforcer et asseoir, le dialogue social et la loi.
Mais encore faut-il, parce que nous allons au dialogue bientôt, au dialogue politique, ben, toutes ces ambitions, si jamais vous êtes plus ministre, ça risque de s'envoler en l'air.
Non, je pense qu'il ne faut pas
le dire. Parce que dans bien des cas, on connaît comment le pays fonctionne. Et excusez-moi les termes, monsieur le ministre. Parce que vous avez des idées, mais si vous n'arrivez pas le plus tôt, parce que le dialogue, c'est pour bientôt. En tout cas, pas au mois d'août, peut-être que vous le ferez plus.
Vous avez raison, monsieur le journaliste. Je prends ça comme un compliment. Tout d'abord, évidemment, nous soutenons le dialogue, hein, parce que c'est la voie qui nous permettra d'avoir des élections apaisées dans notre pays. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'administration publique est totalement apolitique. Et d'où l'intérêt de mettre en place ces lois, ces textes. Quel que soit le gouvernement qui viendra dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ce gouvernement trouvera les bases pour la bonne gouvernance dans l'administration publique. Nous avons travaillé jusque hier avec un texte que Mobutu a laissé. Vous voyez, et nous l'avons décrié, mais il était là. Ce n'était pas facile de le modifier. Maintenant que le Parlement a adopté, maintenant que le chef de l'État a promulgué, nous devons le mettre en place.
Les fonctionnaires doivent s'approprier,
c'est l'approprier.
La population aussi.
Et à notre niveau, en tout cas, au niveau du ministère de la fonction publique, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas de temps à perdre. Si nous avons un jour, c'est comme ça que je réfléchis,
la mise en place effective de cette séquence.
Là, je vois que vous êtes très, très direct. Alors, tout ce que je peux dire maintenant, c'est que notre objectif, c'est qu'à la fin de cette année, fin décembre 2016, nous allons évaluer. Et notre ambition, c'est de voir le début de l'année prochaine, 2017, nous sommes en train de payer les retraités.
Voilà, on va écouter les trois derniers auditeurs. On donne à chacun une minute et puis on conclut rapidement. Alors, Jeunesse, vous êtes à Bandounouville. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, ne revenez pas sur ce que les autres ont dit. Oui, rapidement, quel est votre avis dans 30 secondes? Ne revenez pas sur ce que les autres ont déjà dit.
Oui, oui. Ok, merci beaucoup, J.R. Je vais aller d'abord commencer par poser la question au ministre. Est-ce qu'il est vraiment à l'aise au regard de la situation sociale des fonctionnaires? Est-ce qu'il est vraiment à l'aise de parler de ces derniers? Et je voulais aussi poser la question au ministre pour savoir, en initiant la bancarisation, un des grands objectifs était de pouvoir mettre fin
au détournement des
salaires des fonctionnaires.
Merci beaucoup. On prend Jules Lacamina. Vous nous excuserez, on va accorder à chaque 30 minutes. 30 secondes, 30 secondes. C'est pratiquement
ce qu'il est nécessaire. Je voulais poser la question à M. le ministre. Les fonctionnaires qui ne sont pas payés et qui sont mécanisés, les NP.
Les NP.
Comment est-ce qu'ils vont Oui, et NI.
Les NI et les NP, voilà.
Soldier à payer ces gens-là et il organise les histoires aussi longtemps il y a des gens qui ne sont pas payés.
Voilà. Merci beaucoup. Vous m'avez quand même appliqué ma question, la petite dernière que j'allais poser au ministre. Merci, Jules. Alors, Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour. Marcel Kabatere depuis Kananga. J'ai deux petites préoccupations.
Oui, rapidement, vous n'avez que 30 secondes.
Oui, la première est que monsieur le ministre nous dise combien, par rapport au budget en cours, combien sont déjà servis par cette caisse.
La caisse, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors rapidement, monsieur le ministre, on va répondre à leurs préoccupations, parce que les trois derniers n'ont fait que poser de questions. Merci. Alors on vous laisse l'habitude de répondre rapidement.
Merci beaucoup. Je peux dire que je ne me sens pas à l'aise, parce que je suis moi-même fonctionnaire. Vous comprenez, et c'est pour cela que j'y vais avec toute l'énergie possible pour dire si les conditions s'améliorent aujourd'hui, ma condition aussi va s'améliorer. Je suis professeur d'université et je me bats pour que effectivement les conditions des fonctionnaires soient améliorées. La bancarisation, oui, avait pour but de démanteler les réseaux. Beaucoup a été fait. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'il y a des moyens qui se mettent à côté. Et ce sont ces moyens qui vont être utilisés par le gouvernement pour payer progressivement les LP. Nous sommes en train d'y travailler avec le ministère du budget et les autres ministères. Et les LU vont être régularisés progressivement. Est-ce que la caisse a déjà commencé à servir? Non, nous sommes en train de la mettre en place. Et j'ai dit, notre objectif, c'est de voir, en tout cas le début de l'année prochaine, commencer à payer les retraités.
Et quels sont les préalables qui pourraient constituer un frein pour la mise en œuvre effective d'ici la fin de l'année?
Le préalable, d'abord, c'est s'il n'y a pas appropriation par les concernés eux-mêmes, mais je comprends que les concernés sont conscients, ils s'approprient. Deuxièmement, le gouvernement est déterminé, donc je n'ai pas de doute dans ce sens-là. Moi, je pense que la balle reste dans le camp du ministère de la fonction publique et du gouvernement pour que cette caisse soit mise en place. En tout cas, le chemin est déjà balisé. Je peux garantir que nous y arriverons sans problème.
Il y a beaucoup d'innovations dans ces textes. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la caisse des retraites. Prochainement, vous souhaiterez aussi revenir pour parler d'autres innovations?
Mais je reviendrai toujours parce qu'il faut à tout prix que tout le monde puisse comprendre et s'approprier la nouvelle loi. C'est très très important. Et si vous le permettez, je voudrais en tout cas terminer en disant, pour moi, pour ce qui me concerne, l'acte le plus important que le chef de l'État a posé pour l'administration publique depuis qu'il est président de la République, c'est cette loi. Parce que cette loi jette les bases pour la bonne gouvernance de notre administration publique. C'est vraiment un élément, un instrument important qui l'aura légué aux générations à venir.
Pascal Issoumbicho, Mwapu, merci d'avoir été de nôtre. Nous rappelons que vous êtes ministre de la fonction publique. À très bientôt.
Merci et merci à tous les auditeurs.
Allô ? Il ne répond pas ?